Les coqs chantent et jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Oui, oui.
D'accord.
L'agriculture et l'élevage sont deux activités liées. En effet, il faut nourrir les animaux afin de pouvoir nourrir les hommes. Et nourrir les animaux dépend beaucoup de la situation géographique et des avantages ou inconvénients du climat. Aujourd'hui, nous allons visiter une ferme de culture fourragère dans le village de Gouloum, dans le département de Linguère, au Sénégal. Quelques chiffres de l'élevage au Sénégal. 3,5 millions de bovins, 10 millions de petits ruminants, environ un demi-million d'ânes et de chevaux, 25 millions de volailles diverses, ainsi que 6 000 chameaux et dromadaires. Le Sénégal constitue avec le Burkina Faso l'un des deux pays sahéliens sans désert. Pour autant, le secteur de l'élevage doit faire face à quelques problèmes. L'essentiel de l'élevage est dit pastoral parce que cette activité est caractérisée par sa mobilité, son caractère extensif, sa faible intégration au marché. Les pays du Sahel se situent sur la frange sud du Sahara, comporte le Sahel au nord et la savane au sud. Cette situation explique la persistance de l'élevage transhumain. Une des solutions pour amoindrir les problèmes, c'est la culture fourragère. À Gouloum, nous sommes reçus dans la ferme d'une notabilité locale, tout le monde dit Monsieur Sahar. Et nous sommes accompagnés par Monsieur Mamadou Moustapha Thiam, docteur vétérinaire, chef d'antenne de la zone nord du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel.
Sur le plan géographique, c'est une antenne qui intéresse trois régions administratives du Sénégal. La région de Saint-Louis, la région de Louga et la région de Madam. Et à l'intérieur de ces trois régions, cinq départements ont été donc choisis, donc constitués, si vous voulez, la zone nord d'intervention du projet PRAPS.
Ben ici, c'est la zone d'élevage. Quand on regarde partout, il n'y a que ça.
Effectivement, on est en pleine zone sylvopastorale du Sénégal. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs, mais il ne pleut pas beaucoup, comme au sud du Sénégal ou bien au centre du Sénégal. Ici, nous sommes dans les ézoïettes 350, maximum 400.
Vous voulez dire que maximum, chaque année, plus 400 mm?
En moyenne. Par exemple, les années se suivent, ne se ressemblent pas au Sahel. Donc, il y a des années de bonne pluviométrie comme il y a des années de mauvaise pluviométrie. Puisque l'hivernage démarre ici à peu près en mi-juillet et s'arrête en mi-octobre. Donc, c'est une saison pluvieuse de courte durée. Ensuite, si on n'a pas beaucoup de chance, les pluies sont espacées.
Dans ces conditions, il vous reste l'élevage.
Exactement. C'est une zone adaptée à l'élevage. D'abord, c'est de grands espaces. Donc, ce n'est pas une zone densément habitée. Donc, c'est des villages, de petits villages, ça et là, mais avec beaucoup de pâturages naturels, beaucoup de buissons qui sont favorables à l'élevage de mobilité, comme on dit. Vous verrez très souvent pendant l'hivernage, les éleveurs courir avec le bétail à gauche et à droite à la recherche de pâturages. Puisque comme c'est le Sahel, également, il n'y a pas une continuité de se taper herbacé. Donc, dès qu'ils ont l'information en termes d'endroits fournis en pâturage, ils n'hésitent pas à se déplacer pour exploiter ces parcours.
Monsieur Thiam, attendez, je vois si j'ai bien compris ce que vous me dites. C'est-à-dire cet élevage de mobilité doit s'entendre avec les agriculteurs, C'est-à-dire qu'en saison pluvieuse, comme il y a de l'herbe dans cette zone d'élevage, on remonte avec le troupeau pour ne pas gêner les agriculteurs en bas. Et une fois que les agriculteurs ont récolté et que ici ça s'assèche, on descend vers le sud.
Oui, exactement. C'est au sud d'ailleurs que s'effectuent principalement les activités agricoles, par exemple les cultures de rente. Mais présentement ici en zone sur le pastoral, c'est des champs de cases, c'est de petits espaces souvent clôturés.
Ah, donc les espaces que je vois avec des clôtures formées d'épineux là, ça c'est les champs?
C'est des champs de cases précisément, donc vous voyez c'est des champs qui sont satellites au village. Parce que c'est des agropasteurs, souvent ils cultivent pour l'autoconsommation de la famille, mais souvent ce n'est pas pour la commercialisation même. La vocation de la zone, ce n'est pas ça. La vocation de la zone, c'est une zone agro-silvo-pastorale, c'est vrai.
Docteur Thiam, vous nous avez amené dans ce village depuis Dakar, ça fait quand même des kilomètres.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une grande partie en goutron, mais c'est quand même des kilomètres. Et pour nous montrer une expérience du cultif fourragère.
Oui. Exactement. Je pense que c'est très intéressant comme peut-être modèle, puisque vous savez, donc c'est une culture fourragère avec une espèce annuelle, donc très vivace, qui a besoin d'eau pendant la saison sèche. Et ici, le challenge, c'est l'eau. Donc on est en pleine zone sur le pastoral où règnent des forages pastoraux de 350 mètres de profondeur. Donc le facteur limitant à l'adoption de ces cultures fourragères-là, c'est l'eau.
C'est quoi cette plante-là?
Voilà, c'est une plante originaire de Guatemala, en Amérique latine. Bon, donc c'est une graminée. Le nom scientifique, c'est Pennisetum purpureum, mais plus connu sous le nom de Maralfalfa. Ou bien, vous allez encore rencontrer dans la littérature le terme Néma. Donc, toutes ces appellations-là mènent à la même plante. Donc, c'est une graminée très vivace qui peut durer de 7 à 15 ans. Hein? Donc c'est une plante qui grandit très vite, qui n'est pas trop exigeante en eau et en nutriments. Si vous avez un peu d'eau et beaucoup de soleil, donc la plante prospère.
Attendez, le goutte à goutte, c'est ce gros tuyau que je vois là et les petits tuyaux qui parcourent des ramifications.
Voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est bien aligné. C'est pour économiser l'eau. Comme on n'en a pas à gogo, on n'en a pas à suffisance. Et on ne peut pas aussi faire des cultures fourragères en saison sèche sans de l'eau. C'est pourquoi on a adopté le système de goutte à goutte, qui permet également vraiment de développer des parcelles de cultures fourragères à moindre coût.
Il faut donc un investissement initial, acquérir le terrain, réaliser un forage profond, installer un système de goutte à goutte. C'est un système de tuyaux plastiques qui parcourt le périmètre. L'idée, c'est que l'eau tombe goutte après goutte jusqu'à la racine de la plante. À Gouloum, il s'agit d'une expérimentation. On veut aussi montrer aux éleveurs de la zone que c'est possible de faire de la culture fourragère dans cet environnement difficile.
Le problème que nous avons au Sahel en général, c'est la production de lait en saison sèche, puisque les ressources fourragères sont étroitement liées à la pluie, donc à la pluviométrie.
Alors que la production de lait est liée aux ressources fourragères.
Voilà, donc pour rentabiliser cette production laitière, donc plus on produit du lait en saison sèche, plus on gagne. Naturellement, si vous venez ici en hivernage, l'hivernage qui ne dure que 3 mois, vous avez un surplus de lait déjà. Donc une partie est réservée à l'autoconsommation, donc de la famille. L'autre partie est transformée en cahier, les cahiers, ou bien en beurre de vache. Et le surplus est commercialisé. Mais cela n'arrive qu'en hivernage, malheureusement.
Et tout le monde... Tout le reste de l'année, on est un peu nourri.
Voilà, maintenant, tout le reste de l'année, c'est de la poudre de lait que les gens achètent, alors qu'on a du bétail.
Ah, c'est-à-dire qu'on importe de la poudre de lait?
Mais on importe beaucoup de poudre de lait et même des dérivés du lait. Alors, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, même au niveau des services des douanes du Sénégal, 86 milliards d'importations de produits laitiers ont été enregistrés au niveau du port et de l'aéroport du Sénégal. Vraiment, c'est énorme pour une population de 16 millions d'habitants.
Mais pourquoi vous avez choisi ce producteur?
Comme c'est un essai, il fallait sélectionner des producteurs sérieux, tenaces, et qui y croient. Puisque quand même, ce n'est pas gagné d'avance. quand vous demandez aux autres producteurs pourquoi vous ne voulez pas adopter la culture fourragère, ils vous disent que nous avons des problèmes pour satisfaire les besoins de consommation d'eau pour nos animaux et pour nos familles. Vous voulez qu'on verse de l'eau sur le sol en arrosant ces plantes-là. Donc, ouais, c'est très logique, hein, si vous les suivez dans la réflexion.
Ça veut dire que vous-même, vous devez être du milieu et que vous avez pris le temps d'observer les uns et les autres pour voir qui fait l'affaire. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez fait pour eux?
Voilà, exactement. C'est parce qu'on les a pratiqués. Par exemple, ce vieux, moi, je l'ai connu depuis 1992.
Ah oui.
Depuis 1992, il adopte beaucoup de thèmes techniques, allant de la constitution des réserves fourragères à partir des parcours naturels, de l'insémination artificielle, donc pour améliorer les races en termes de production de lait, de l'embauche bovine. Il a des ateliers d'embauche bovine.
Mais comme quoi, on n'a pas besoin d'être jeune pour adopter l'innovation.
Voilà, exactement. Mais c'est un vieux qui y croit. Il a expérimenté cet élevage et ça lui rapporte beaucoup.
Mm-hmm.
Par exemple, quand je vous donne un exemple, avec le maralfalfa, il a pu nourrir un noyau de femelles de productrices de lait. Chaque mois, il gagne 700 000 francs CFA de bénéfices nets sur ce lait. Après avoir défalqué, bien sûr, les dépenses comme le concentré, la rémunération des ouvriers, les frais vétérinaires, il gagne 700 000 francs par mois.
Mais il y a des fonctionnaires à Dakar qui n'ont pas ça.
Ah, mais absolument, de gros fonctionnaires. Les salaires au Sénégal, tout le monde connaît.
Même si on est parti avec un éleveur engagé dans l'innovation, il a fallu une phase de sensibilisation au début.
Quand je lui ai parlé de maralfalfa, il ne connaissait pas ce que c'est que le maralfalfa. Mais quand je lui ai expliqué comment ça fonctionne, c'est lui-même qui a investi. Ce n'est pas le PRAPS qui lui a donné les moyens de mettre de l'eau en goutte à goutte dans son champ. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est de lui apporter la semence, de le former sur les itinéraires techniques, c'est-à-dire au bout de 60 jours. Quand il a récolté, maintenant c'est lui qui, avec ses enfants, ses ouvriers, donc qui font le reste. Donc c'est l'appui conseil qu'on a tout simplement donné.
Et dans votre tête, cette expérience est tellement concluante que vous cherchez à l'étendre ailleurs.
Exactement, exactement. Cette expérience nous a tellement charmés qu'on a voulu développer en guise de démonstration des champs-écoles pour permettre toujours, dans le cadre de la vulgarisation, montrer aux populations qui sont dans la zone sur le pastoral que c'est possible avec les forages, avec ce système de goutte à goutte, de développer des parcelles de culture fourragère. Vous avez une zone de 70 000 km².
Ah, c'est pas mal.
C'est la zone sur le pastoral, c'est une zone énorme. C'est une zone agroécologique énorme où tout le pastoralisme sénégalais se fait à l'intérieur de cette zone.
En fait, l'idée, c'est que si vous arrivez à faire évoluer favorablement les choses dans cette grande zone que vous appelez le fer de l'eau, ça va changer radicalement la vie dans les villages.
Exactement, parce que quand on pratique l'élevage, c'est pour des productions animales. Et les productions animales, c'est quoi? C'est le lait et la viande. Bon, jusqu'à présent, les éleveurs gagnent leur vie avec la viande, même en commercialisant des animaux sur pied, mais c'est au niveau de la production laitière que ça pêche. Parce que c'est une production exigeante en alimentation. Alors, en hivernage, le problème ne se pose pas puisque partout poussent des graminées fines.
Ça veut dire que ce que je vois là, dès qu'il y a la pluie, tout ça c'est vert.
C'est vert, c'est rempli vraiment des espèces très appétées, des espèces très riches, allant des légumineuses jusqu'aux graminées fines.
Tout ce que les animaux aiment.
C'est tout ce que les animaux aiment, mais ça ne dure pas. Les mares sont remplies, donc les forages ferment.
On n'a plus besoin de dépenser pour l'eau.
On n'a plus besoin de dépenser pour l'eau. On n'a plus besoin de dépenser pour le complément alimentaire à partir des produits usinés.
Et on a du lait à ne plus savoir.
Voilà, jusqu'à ne plus savoir quoi en faire.
Ce que vous voulez me dire, c'est que voilà, cette production laitière va se faire au milieu des villes, c'est-à-dire là où il y a un marché pour écouler ce lait.
Très bien. Si je prends l'exemple de Gouloum, ils sont à 25 km de Dar. Une partie est en laiterite. L'autre partie, c'est des pistes de sable. Donc, on peut, avec l'électricité qu'il y a ici, au moins mettre ce lait-là à plus 4 degrés, le mettre dans des récipients avant de les acheminer à 25 km de ce village. Donc le problème ne se pose pas. C'est là où il y a quand même la demande, là où la demande est forte.
Le choix du Coulomb pour l'implantation de cette unité de culture fourragère n'est pas fortuit. Nous sommes sur une route goudronnée qui conduit à Louga, chef-lieu de région. Cette ville de 110 000 habitants est très demandeuse de lait. De plus, Coulomb est à 25 km de Dara, qui abrite chaque dimanche l'un des plus grands marchés de bétail de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a d'autres problèmes qui relèvent de la diplomatie.
Mais exactement, puisque maintenant qu'on a des tanks en aluminium qui peuvent faire jusqu'à 70 litres, alors si vous avez 5 tanks, 6 tanks, vous voyez ce que ça représente.
C'est ça qu'on voit dans les camionnettes là.
Voilà, exactement, c'est ça qu'on voit dans les camionnettes. Donc c'est dans des tanks en aluminium qu'on transporte très tôt le matin, juste après la récolte, pour éviter...
Quand il fait frais.
Quand il fait frais. Parce que le problème, c'est qu'avec la température, aussi c'est un facteur de dépérissement du lait.
Et en plus, on m'a dit que Dara, c'est le plus grand marché de bétail de la zone.
De la zone, mais les gens même disent de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le samedi, mais vous voyez déjà comment la ville est animée.
Ça veut dire que demain, ça va être quelque chose.
Demain jusqu'à lundi, c'est comme ça, c'est l'effervescence. Tous les centres de regroupement secondaire d'animaux achetés au niveau de la zone nord, finissent presque par Dara. Si vous regardez les chiffres du marché, il n'est pas rare de voir chaque dimanche la commercialisation de 4000 bovins et 2 à 3 fois plus de petits ruminants.
Ah, c'est ça, je vois des grands troupeaux qui...
Le long des axes.
Le long de, depuis qu'on a pris voilà. La piste là.
Voilà. Dès que vous voyez au Sénégal, un bovin peint en bleu sur la croupe, il est vendu à Dara.
Ah, c'est la couleur du lieu.
Voilà, donc chaque marché a sa couleur.
Je vois que vous n'avez pas choisi ce lieu par hasard pour cette expérience du cultif fourrager.
Exactement, exactement. L'occasion fait le larron, comme on dit. Mm-hmm. On a la chance de tomber sur un vieux qui est très écouté, très respecté, qui ose même tenter, qui ose essayer au moins. Donc c'est nous, c'est une porte d'entrée. Donc dans un milieu éleveur, lui-même il organise des visites à d'autres producteurs pour leur montrer comment ça marche, combien ça leur coûte.
C'est pour ça qu'il a gardé son troupeau là pour nous recevoir.
Exactement. Il dit que, d'ailleurs, il a dit en langue wolof, quand vous terminez, il faut leur montrer mon bétail.
D'accord.
Voilà. Qu'il alimente à partir de ces ressources-là. L'année dernière, il a fait 11 000 balles, des balles compactées de pâturage naturel qui ont été fauchées par ses propres machines qu'elle garde. Depuis qu'il a mis en place cette parcelle qui ne fait pas 1 hectare. Parce que la parcelle, c'est à peu près 0,75 hectares. Mais il m'a fait une confidence la fois dernière en me disant que l'année prochaine, je ne vais pas faucher le parcours naturel. Puisque je n'arrive pas à épuiser mon marafalfa.
Bon, on va arrêter là parce que si on vous écoute, docteur, on va changer de métier.
Voilà, merci. Merci. Nous sommes à votre disposition. Vraiment, c'est le plaisir est pour nous.
Ok, merci. Ah, vraiment, c'est gentil. Merci pour tout.
Merci,
Nous étions en visite dans une ferme de culture fourragère dans le village de Gouloum, dans le département de Linguère au Sénégal. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Travail fini parti. D'accord. Autour de la